Bienvenue dans Venue d'Orient, le podcast des voix de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale. Je suis Nawal El Amouchi et cette semaine, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Toufik Beramdam, un artiste à la renommée internationale qui navigue entre la photographie et la peinture. Ses repères, ce sont l'Afrique du Nord, le Maroc et l'Algérie, dont il est originaire. Paris, sa ville d'adoption où il vit aujourd'hui, mais aussi les États-Unis où il a plongé dans la scène artistique underground qui a profondément nourri son univers. Toutes ces influences ont construit un artiste audacieux, libre et singulier. Entretien avec Toufik Beramdam. Bonjour Toufik Beramdam.
Bonjour Nawal.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour Venue d'Orient. Je vous laisse dans un premier temps vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas.
Je suis Toufik Beramdam. Je suis franco-maroco-algérien. Je suis né algérien pour les Algériens, marocain pour les Marocains. Et j'ai grandi en France, puis je suis parti à l'âge de 27 ans aux États-Unis où j'ai passé 16 ans. Et ensuite, je suis retourné au Maroc où j'ai passé 17 ans. Je suis à nouveau à Paris dans mon atelier de peinture. Je fais de la peinture depuis à peu près 1992. Je suis à la Maison des Artistes et je fais de la peinture depuis très 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 longtemps. J'ai travaillé à la fois à Paris, puis sur le continent nord-américain. J'ai exposé à New York, puis à Washington. La grande exposition que j'ai eue, c'était en 2010 à la Villa des Arts de Rabat, où j'ai eu droit à une rétrospective de 20-25 ans de travail.
Pourquoi avoir précisé marocain pour les Marocains, algérien pour les Algériens au début de votre présentation ?
C'est tout simple parce qu'en réalité, je suis né en Algérie, à Tlemcen. Mon papa, qui est marocain, n'était pas là, il n'était pas fier que je sois né en Algérie. Donc, un mois et demi après ma naissance effective, il m'a déclaré à l'état civil marocain en disant « voilà, mon fils est né hier ». Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai deux extraits de naissance parfaitement légaux.
C'est une situation assez particulière.
Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il doit y avoir beaucoup de gens d'un certain âge qui doivent être dans le même sac.
Donc vous l'avez dit, hein, vous êtes né donc, en Algérie.
Oui.
Vous avez grandi à Paris, vous avez vécu de nombreuses expériences à l'étranger, au Maroc,
oui,
aux États-Unis.
Oui.
À quel moment vous avez compris que ces multiples appartenances, elles allaient aussi devenir une force dans votre travail artistique ?
Eh bien, c'est tout simple, c'est l'addition des expériences. Mon papa travaillait pour le cirque, donc il montait des chapiteaux pour le cirque Amar et en suivait. Donc on a beaucoup déménagé. Autant quand j'étais petit, je trouvais que j'étais malheureux parce que j'avais jamais les mêmes copains, parce qu'à chaque fois, il y avait la déchirure. Il y avait le fait de parler avec accent, et puis dès qu'on a perdu l'accent, il fallait qu'on déménage. Et puis en grandissant, le jour où je suis arrivé aux États-Unis, j'ai compris que mon accent français, c'était un plus. La première fois de ma vie où je suis arrivé quelque part, c'était à Washington, et moi qui avais l'habitude d'essayer de perdre mon accent, en fait, parfois je faisais exprès de parler avec un lourd accent français, parce que c'était très romantique et très poétique pour les Américains, quelqu'un qui parle français, parce que la culture un peu au-dessus de la culture américaine, pour les Américains, c'est la culture française. Donc ils sont fascinés par tout ce qui vient de France, et encore plus si on vient de Paris.
Donc le regard aux États-Unis et le regard à Paris est totalement différent.
Exactement. Du moins, à l'époque où moi je suis allé aux États-Unis, j'y suis allé à partir de 1992 jusqu'à mon 2007. À l'époque, le fait de parler français, c'était un plus pour les Américains. À New York, ça ouvrait des portes. Le fait qu'on soit venu d'ailleurs, d'Europe, c'était vu comme quelque chose de positif. Et si on disait « oui, j'ai exposé à Paris », alors ça rajoutait encore un peu plus.
À Paris, en France, vous l'avez dit, hein, vous avez aussi exposé dans des très grands lieux, le Centre Pompidou, l'Institut du Monde Arabe. Ça a été comment de faire une place ?
Eh bien, moi, je dois dire que j'ai jamais ni ressenti le racisme, ressenti une quelconque animosité à mon encontre, parce que le monde des arts, c'est un monde multiple. Beaucoup de gens sont venus à Paris d'ailleurs, et du coup, on se retrouve, c'est très, très, très mélangé. Donc, moi, je ne peux pas dire que ça a été très difficile. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est plutôt le regard de ma famille. J'étais un peu comme un ovni, un extraterrestre, parce que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur. Dire qu'on est peintre dans ma famille, ça ne fait pas sérieux.
Mais pourtant, votre père travaillait au cirque, donc oui. C'était aussi un métier artistique.
Oui, mais lui, c'était vraiment un travailleur de force. C'est pas quelqu'un qui jonglait, qui avait un numéro, c'était plutôt une sorte de manœuvre qui tapait sur les trucs pour maintenir le chapiteau. Mais c'était quelqu'un de particulier, il était tatoué dans les années 50, ce qui était très très rare. Moi, j'ai baigné dans un monde très jeune, dans un monde de la création, de la culture, de littérature, de musique, donc, et c'est un milieu à part de la société. C'est pas un milieu de besogneux, c'est un milieu de gens passionnés. Les gens qui font de la peinture, c'est des gens passionnés. Puis on comprend très très vite qu'on travaille contre soi-même, on travaille pas contre les autres.
Et vous vous souvenez de vos premiers coups de pinceau?
Oui, ah, je m'en souviens très très bien parce que j'ai gagné mon premier concours de peinture. J'avais 12 ans, j'étais en 6e. Et donc j'avais peint, à l'époque, il y avait, je ne sais plus si c'était dans les boîtes de Vachkiri ou de Gâteau, il y avait les joueurs de foot qui étaient là. Et j'avais fait le portrait d'un gardien de but sur une feuille et j'avais gagné le premier prix dans mon collège. Et ça m'avait rapporté... Le premier prix, c'était beaucoup de livres. Et je me suis dit, tiens, c'est super le fait qu'un dessin pouvait rapporter autant. Donc, après, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours travaillé inconsciemment au départ et puis consciemment après, c'est travailler sur la beauté et sur la liberté. J'ai jamais cherché à forcer le destin en disant, oui, je suis à 100% ceci ou cela, dessinateur ou styliste ou peintre. Parce que pour moi, tout ça, c'est un même monde. Je faisais des peintures que je vendais pour financer tout ce que je faisais en mode. Les habits que je faisais étaient moins successful que mes peintures.
Et tout à l'heure, vous nous parliez de votre famille qui espérait peut-être autre chose pour vous qu'une carrière artistique. Qu'est-ce qu'ils espéraient?
Je ne sais pas, parce que mon père, après, il a fait beaucoup de métiers. Hein. Il a fait boulanger, chef de chantier, tout ça. Il voulait absolument que je fasse quelque chose de concret. Un jour, mon papa, il m'a dit « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui ai dit « Papa, je voudrais être payé en dormant. » Alors, il m'a regardé en me disant « Ouais, tu es vraiment... plus fou encore que ce que je pensais. » Et quelques années plus tard, j'ai dessiné des sous-vêtements masculins pour un catalogue qui s'appelait Les Trois Suisses. C'est vieux, hein, ouais. Je ne sais pas s'ils existent encore. J'ai fait une collection et puis ils m'ont pris, je crois, une demi-page ou après une page. Et ça a été une révélation pour moi parce que j'ai pu régler mes problèmes avec mon papa. Parce qu'au bout de 6 mois, j'ai été payé, je crois, 4,5% sur les bénéfices. Quand il m'a envoyé le truc, je suis allé voir mon papa et je lui ai dit, bah voilà, tu te souviens ce que je t'avais dit? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, voilà, bah, pendant que je dors, les gens commandent et j'ai 4,5%. Donc ça, c'était une petite anecdote pour mon père. Et puis, chaque fois, quand je retournais au Maroc, les gens, ils voulaient tous avoir un tableau, croyant qu'on les faisait comme ça. Et si on essayait de leur faire croire que c'était notre métier et que c'est grâce à ça qu'on vivait. Donc, c'est un peu difficile parce que pour eux, c'est pas une nécessité. Les gens sont dans des luttes, la plupart, d'existence primaire. Ils doivent manger, ils doivent dormir, ils doivent se loger, etc. Aux Marocains, on dit « l'hemfouktam », qui veut dire « c'est la viande au-dessus des légumes, au-dessus du couscous ». Donc l'art, c'est presque un luxe. Pour moi, ça ne doit pas être un luxe. Au contraire, ça doit être quelque chose qui doit être à la portée de tout le monde et de comprendre que c'est bien d'être assis sur cette chaise, mais cette chaise, on peut la dessiner de plein de fois. Elle doit répondre à des critères, à des choses. Et ces critères peuvent évoluer avec le temps, peuvent évoluer avec le poids, avec la taille, etc. Et donc, c'est bien d'être tourné un peu vers l'avant, quoi.
Et comment vous l'avez vécu, vous, le fait de ne pas avoir été forcément soutenu?
Je ne sais pas, parce que moi, je suis quelqu'un de têtu. Et quelqu'un qui croit dans sa bonne étoile. J'ai des hauts et des bas comme tout le monde. Mais j'ai eu cette chance inouïe de rencontrer des gens qui m'ont pas forcément donné de l'argent, mais qui m'ont donné de l'espoir, qui m'ont donné presque une certitude que j'étais sur la bonne voie, même si je connais pas la voie. Le plus important pour moi, c'est faire des choses pour des gens qui sont un peu au fait des choses, qui vont réaliser que ce que je fais est intéressant dans mon domaine, dans notre domaine. Il y a 3 jours, il y a une petite fille qu'on connaissait pas qui est venue jouer avec ma fille à la maison. Et elle jouait ensemble. À un moment, elle a frappé à la porte. Elle m'a dit « Tonton, est-ce que je peux te poser une question ?» Je lui ai dit « Oui, moi, je ne la connaissais pas, cette petite, elle a 9 ans. » Et elle me dit « Est-ce que c'est vous qui faites les peintures au mur ?» Je lui ai dit « Oui. » Elle m'a dit « Ah, qu'est-ce que c'est beau !» Et elle m'a même rajouté après « Est-ce que vous pourriez faire un tableau pour ma maman ?» Et donc, pour moi, c'est pour ce genre d'audience qu'on travaille. Ce n'est pas forcément pour des gens qui vont dire « Ah oui, c'est super, je vais vous acheter pour vous mettre dans ma collection ou je vais vous exposer chez M. monsieur ou madame un tel. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir toucher quelqu'un, comme un morceau de musique qui va toucher. Un tableau, c'est un peu ça, c'est des vibrations qui peuvent correspondre à un besoin de sentiments, de bonheur, et qui vont faire réagir cette personne de cette manière. Ça m'est arrivé 3-4 fois dans ma vie, et à chaque fois, c'était des expériences très très puissantes. Et quand ça arrive, ça fait du bien. On se dit, voilà, on travaille pas pour rien.
Et vous, votre particularité, donc, c'est que vous usez différentes techniques, le collage, il y a aussi de la photographie,
oui,
la peinture.
Oui.
Vous n'entrez un peu dans aucune case.
Ça dépend des moments. Par moment, j'ai besoin de faire certaines choses. Toujours pour être libre, on va me demander de décorer un restaurant, je vais le décorer, je vais m'occuper des sièges, de ceci, de cela. Et puis parfois, je m'assois, je prends mes encres de Chine et puis je peux faire des choses à l'encre de Chine ou des choses en peinture. La peinture, ça peut paraître très séduisant de l'extérieur, mais c'est un vrai piège. Pour moi, c'est une sorte de prison de laquelle on ne peut jamais s'échapper.
C'est-à-dire ?
Contrairement à ce que certains disent, c'est de la jubilation. Pour moi, c'est comme écrire, par exemple, vous écrivez et que vous avez toujours les mêmes mots et vous cherchez une nouvelle histoire, encore une nouvelle histoire, et là, c'est un nouveau tableau, et vous devez rester dans un périmètre. C'est pour ça que pour moi, tout est bon pour échapper de la prison.
Donc, explorer différentes techniques, ça,
oui,
vous permet de vous,
oui,
libérer.
Oui.
Et on va revenir brièvement sur votre dernière exposition qui se nomme « Les chaussures que j'aurais voulu avoir ».
Oui, j'ai un peu des obsessions de sujets. Quand je faisais des défilés de mode, je recevais beaucoup de chaussures. J'avais toujours des chaussures en 41 pour les filles et qui me servaient à faire les défilés pour les mannequins. Et souvent, soit j'en donnais, soit... Mais je me retrouvais toujours avec un gros tas de chaussures que j'emmenais à droite à gauche pour faire des photos avec. On discutait de ça et je lui disais que peut-être que c'était un manque de chaussures que je devais avoir ou pas avoir quand j'étais gamin. On était une famille nombreuse, mon père n'avait pas toujours les moyens d'acheter pour tous les enfants tout ce dont nous avions besoin. Et donc c'était un peu les bottes pour aller ramasser les coquillages en Normandie quand on nous emmenait à l'école pour la journée, et donc j'étais le seul pas à avoir de bottes. Et donc ça, c'est un peu les manques qu'on a petit, et puis ces espèces d'imagination de dire « Ah, si j'avais ça, qu'est-ce que j'aurais fait avec ?» Et donc moi, j'ai ramassé toutes ces photos que j'avais. J'avais énormément de photos. Puis j'ai un ami photographe qui m'a dit « Ah, il faut que tu en fasses un peu plus pour faire un bouquin. »
Autre question, qu'est-ce que votre histoire familiale? Et qu'est-ce que vos origines multiples, elles ont transmis de plus précieux à votre art?
J'ai été bercé par un monde qui n'existe plus, en fait. Quand j'étais petit, on allait à la mer, par exemple. On était très, très peu au bord de mer parce que les gens avaient... D'abord, ils ne savaient pas nager. Au Maroc ou en Algérie, les gens ne savaient pas nager. Et ils avaient peur de la mer parce qu'ils disaient « Attention, la mer va t'avaler ». Donc, on pouvait faire certaines choses qui paraissaient... normal, mais avec le recul, on s'aperçoit que c'était pas normal. Par exemple, on partait visiter la tombe d'un saint, tout le monde y allait, et puis quand j'ai grandi, soudain, tout le monde a dit « Ah non, non, il faut pas y aller parce que c'est un saint juif », ou alors on fêtait Ashura, qui était une fête chiite que tout le monde fêtait, et puis maintenant on dit « Ah non, non, il faut pas fêter Ashura ». Cette culture de la bienveillance, cette culture, moi j'étais super content quand j'étais petit, parce qu'on travaillait pas le vendredi parce que c'était les musulmans, le samedi parce que c'était les juifs, et le dimanche parce que c'était les chrétiens. Et mon grand-père habitait à Oran, en Algérie. Et Oran, c'était une ville espagnole, donc il y avait déjà plein de mélanges. Et les odeurs, c'est la cuisine. Quand j'étais petit, par exemple, côté marocain, la cuisine, c'était primordial. Donc, comme la rue entière appartenait à la famille, je pouvais passer, sentir. Et là où ça sentait que moi, je désirais, bah, je rentrais. C'était la tante ou oncle machin. Dans mon travail, il y a toujours un lien caché à cette culture orientale qui est en moi. Et en même temps, j'ai pas envie de faire des babouches. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit « Ah, mais tu es marocain, algérien, tu fais rien d'oriental. » Et je lui ai dit « Est-ce que toi, tu fais des choses ? » Bizarrement, tu fais pas les icônes du Moyen-Âge. On est figé avec des recettes maintenant. On nous a fait croire qu'on était un, alors qu'on est plein. En Orient, il y a plein de gens différents, il y a plein de religions. Puis les gens sont authentiques. J'adore les gens. J'adore la gentillesse des gens, l'accueil des gens, que ce soit en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie. Ou... Je suis allé en Égypte, les gens étaient adorables. Je me suis retrouvé dans des mariages palestiniens. Ça, c'est il y a 30 ans, 40 ans. Et maintenant, les gens se froissent qu'on leur dit sur les autres, quoi, parce qu'ils n'ont pas vraiment de contact avec les autres. Et la culture orientale, pour moi, je suis dans le 18e parce que c'est Barbès. C'est moi qui ai voulu être là parce qu'il y a tout. Et le monde entier est là. C'est un mini-monde.
Et ça, là, justement, ces multiples influences, ces multiples appartenances, vous, vous le voyez plutôt comme une richesse?
Ah oui. Moi, je me dis, mon pays, il va de l'Alaska jusqu'à Tamanrasset en Algérie et de Agadir. Je me sens beaucoup, 4 fois plus riche que les gens normaux, quoi. Les gens qui sont coincés dans une forme de nationalisme. Pour moi, le monde de demain, c'est un petit peu, c'est la différence entre la France des régions, on était breton. En Espagne, on est castillan, ceci ou cela, on parle une langue. Et puis au bout d'un moment, au bout de 2 siècles ou 3, ça fait un grand pays. Et un jour, on va dire, bah, tu viens d'où? Bah, je viens de la Terre, quoi. Quand on va voyager, quand on va faire des trucs. Pour moi, les gens, c'est toujours les mêmes. Il y a les crétins et il y a les moins crétins, quoi. Mais je ne vois pas les gens en couleur, moi. Je les vois débiles, incultes versus, vous voyez. Je trouve ça tellement stupide qu'il y ait des gens encore aujourd'hui qui pensent que parce qu'ils sont blancs, ils sont plus intelligents. Ou pour moi, c'est une aberration. Pour moi, c'est dépassé et c'est la grande force des grandes villes. Moi, je suis vraiment un rat des villes. J'adore les grandes villes. Quand j'étais gamin, j'allais à Londres. C'est 4 fois plus grand qu'à Paris. Je mange indien, je mange des fish and chips et je passe à autre chose. C'est très, très bon. Et puis quand je suis à Washington, je mange d'autres choses qui sont aussi bonnes. Et quand on est au Maroc, on mange encore d'autres choses et ainsi de suite. Et c'est une richesse absolue.
Merci beaucoup, Toufik, d'avoir pris le temps de me répondre.
Merci à vous. Merci infiniment.
Vous venez d'écouter Venu d'Orient, un épisode avec Toufik Behramdam, artiste, peintre et photographe. C'était Nawel El Amouchi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.